La France bouge continue et elle continue Raphaël avec la belle solution du jour trouvée par Elisabeth Assayag.
Oui, de la jolie lingerie adaptée aux femmes atteintes d'un cancer du sein, c'est ce que propose Bibi & Bibi, Elisabeth, et c'est la solution du jour.
Oui, parce que le cancer du sein est le cancer qui touche le plus la femme et cela fait à peine quelques petites années que des entrepreneurs se sont penchés sur la question de la féminité pendant et après le cancer du sein. En effet, comment aimer et reconstruire son corps après une ablation du sein ? Et c'est ainsi qu'est né en 2013 Bibi & Bibi, des sous-vêtements fabriqués avec des matières naturelles, sans traitement chimique, non irritantes et zéro substance nocive. Bonjour Caroline Le Beauvent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Bibi & Bibi. Tout est parti de votre propre histoire en 2007.
Oui, en 2007, j'ai eu donc un cancer du sein avec une ablation du sein. Et tout de suite, je ne me posais pas trop la question de la lingerie. J'étais vraiment dans les traitements.
Dans les traitements, dans le lourd.
Dans le lourd. Et puis, une année après, je me suis fait reconstruire le sein. Et là, je me suis dit, après reconstruction du sein, il n'y a absolument rien de proposé.
Et donc, il n'y a pas de lingerie adaptée.
Oui. Mm-hmm. Donc là, on a à nouveau un sein, mais il y a des contraintes bien un peu douloureuses, de cicatrices, de peau aussi irritée par la radiothérapie. Et donc, j'ai commencé par ce problème-là. Et puis, j'ai trouvé des solutions donc avec des doublures imprégnées d'aloe vera.
Elles sont avec nous sur europe1.fr si vous nous suivez.
Voilà, ça c'est le tulle imprégné d'aloe vera, qui est en fait donc des vertus thérapeutiques d'hydratation et de confort. Et donc mon idée première, c'était vraiment me focaliser sur le confort, tout en gardant un esthétisme de lingerie classique.
Et c'est ça qui vous rend unique ? Qu'est-ce qui vous singularise ? Parce qu'il y a eu des entrepreneurs, il y a d'autres marques qui fabriquent, qui proposent de la lingerie pendant et post-cancer du sein. Qu'est-ce qui vous singularise ?
Alors, notamment ce modèle-là, donc c'est plus la lingerie après reconstruction, parce que ça, personne n'en propose. Le modèle, Caroline, que vous aviez dans les mains, est un modèle qui est adaptable, qui n'est pas forcément fermé en usine à l'entrebonnet. Donc moi, je peux mettre une armature plus souple du côté du sein reconstruit et du sein qui est douloureux. Et on garde une armature classique du côté du sein qui n'a pas été opéré. Après, effectivement, la demande est plus forte dans la lingerie avec poche pour mettre une prothèse, parce que là, c'est encore plus compliqué. Donc, j'ai créé un modèle à poche et l'été dernier, des maillots de bain. Parce que là, en plus, excusez-moi, on est sans filtre. Autant un soutien-gorge, même si on ne le trouve pas très joli, on a un vêtement par-dessus. Autant quand on se retrouve au bord d'une piscine en maillot de bain, s'il n'est pas beau, s'il ne tombe pas bien, c'est un peu plus compliqué de se cacher.
Et vous proposez aussi des modèles personnalisables.
Oui, eh bien c'était celui avec l'armature que l'on peut mettre du côté du sein opéré.
Alors moi, en regardant un petit peu Bibi & Bibi, j'ai vu qu'au début, au début de votre aventure, en 2013, vous faisiez tout fabriquer, tous vos produits étaient fabriqués en France, et là, c'est en Tunisie. Que s'est-il passé ?
Alors, effectivement, le problème du Made in France, c'est que c'est vraiment très cher. Et j'ai été effectivement confrontée au problème des
coûts de fabrication.
Ouais, ouais.
Combien coûte votre lingerie en moyenne ?
En Made in France ?
Oui, en Made in France versus aujourd'hui fabrication tunisienne.
Alors non, les modèles qui ont été faits en France ne sont pas refaits en Tunisie. C'est les nouveaux modèles qui sont maintenant faits en Tunisie. Mais les modèles Made in France...
Il y avait un écart de combien entre les deux ?
C'est 5 fois plus cher.
5 fois plus cher.
Et on sait en plus que la maladie précarise, Bien sûr. C'est pas toujours facile pour les femmes de pouvoir s'acheter une lingerie onéreuse. Et en plus, ça n'est pas remboursé par la Sécurité sociale.
Guillaume Cairo, notre coach.
J'ai vu que vous aviez participé à des salons internationaux dans le domaine de la lingerie. Oui. Est-ce que c'est une opportunité pour quelqu'un qui veut se lancer en termes de business ? Est-ce que vous avez noué des partenariats ? Est-ce que vous avez développé votre réseau ? Dans le cadre de ces salons, est-ce que ça a apporté quelque chose pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Tiens, moi j'ai aussi l'idée, je vais me lancer, je vais peut-être faire un salon ».
Alors, le salon de la lingerie, je l'ai fait en 2015. Je dirais que c'était un peu trop tôt. Je n'avais pas encore une offre très importante. Donc, ça n'a pas vraiment généré de business derrière. Par contre, je fais Là, j'ai fait pendant 2 ans de suite, et je vais le refaire en 2020, le salon des Thermalies. Parce que donc les cures thermales proposent maintenant des cures post-cancer du sein. Ils sont effectivement intéressés par ces produits. C'est aussi ce qui m'a incité à faire des maillots de bain. Parce que dans cette
dans ce contexte-là, ce sera
voilà, c'est complètement
bien accueilli.
Vous commercialisez comment? Uniquement par un site internet? On vous trouve dans des boutiques spécialisées? On vous trouve, il y a désormais aussi quelques grandes surfaces qui se sont mis à faire de la lingerie pour les femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein?
Oui. Alors, moi, j'ai plusieurs canaux de distribution. Les pharmacies qui font de l'orthopédie et notamment ces produits-là. J'ai donc les orthopédistes aussi. Des magasins de matériel médical qui sont bien, bien ciblés aussi sur tout ce genre de produits. Et en plus, donc il y a de plus en plus de magasins qui offrent tout un tas de produits pour les gens atteints de cancer. Donc aussi des perruques et des cosmétiques, etc. Donc voilà.
Vous comptez sortir de France et vous développer un peu partout?
Alors, pour le moment, je vise plutôt les dom-toms en ce moment. Je focalise un peu sur la Martinique et la Réunion. Et pardon, la Réunion aussi, mais la Guadeloupe. Et puis, après, je pense que ça va être plutôt une question d'opportunité. Pour le moment, la France m'intéresse quand même. Je fais pour les Françaises qui aiment la lingerie.
D'abord ici et peut-être plus tard ailleurs. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Bibi and Bibi. C'était la solution aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 58.
Europe 1. Et vous restez avec nous, on va partir chercher un appartement à louer ou à acheter ensemble. Vous pensez que c'est le parcours du combattant? Eh bien détrompez-vous, il y a des tas d'innovations françaises pour nous simplifier la vie. C'est la France qui bouge. Avec vous, à tout de suite.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Venez nous rejoindre sur Europe 1, on vous attend pour La France bouge. Venez partager vos expériences avec nous au 39-21. Évidemment, Justine.
Bien sûr, 50 centimes la minute.
Parce que nous parlons immobilier et puis il y a Twitter également.
Twitter, hashtag Europe 1 ou encore notre site internet europe1.fr.
Venez nous dire, tiens, comment vous faites pour chercher un appartement à louer ou à acheter? Si vous trouvez que les étapes pour vendre un bien sont longues et fastidieuses, c'est le moment de participer. Vous allez voir que le secteur, lui, est en pleine mutation et ça commence évidemment dès la visite. Bonjour Stéphane Sedini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de, on dit Gizmo?
Oui, Gizmo.
Alors ça s'écrit G-I-Z-M-O parce que sinon on va m'écrire pour me demander. Vous avez mis au point une solution de réalité virtuelle pour les visites immobilières. L'idée est née en 2014, je crois. Un an avant, en fait, vous aviez créé One Mile, une plateforme géolocalisée d'entraide et d'échange de services entre particuliers. Mais très vite, vous avez finalement décidé de vous servir de cette plateforme pour en faire autre chose. Quel a été le déclic?
Le déclic, c'est que l'échange de services est un modèle collaboratif hyper valorisant humainement. Par contre, financièrement, il n'y a pas directement de modèle économique. Donc nous, on s'est interrogé parce que notre interface plaisait à nos utilisateurs. Et donc, comme tout a été géolocalisé, qu'en 2014, il n'y avait pas grand-chose dans le domaine de l'immobilier, on a décidé de redesigner la plateforme initiale en plateforme immobilière. Voilà. Donc on a commencé notre aventure comme ça. Et puis finalement, est arrivée la réalité virtuelle 3D. Et là, j'y ai vu un intérêt et une expérience très intéressante en fait pour les vendeurs et les acheteurs. Et donc, on a décidé de proposer des services de visite aux promoteurs sur toute la France. Et donc, aujourd'hui, notre spécificité, c'est de faire visiter la totalité des logements qui sont vendus sur plan.
Donc, en fait, ils fabriquent les plans et vous mettez en scène, en quelque sorte. Vous créez le logement, vous mettez le mobilier, vous faites comme si nous projetions à l'intérieur.
Alors c'est exactement ça. Il faut savoir aujourd'hui que 8 personnes sur 10 n'arrivent pas à se projeter sur un plan. Et pour autant, le plan est comme l'outil premier aujourd'hui des commercialisateurs. Donc nous, notre métier, c'est de partir de ce plan, c'est de monter bien sûr tous les murs, c'est d'aménager en fait l'appartement de manière intelligente et c'est de le décorer de manière attractive. L'idée, c'est vraiment de projeter l'acquéreur, mais c'est aussi de lui permettre finalement de faire vivre son projet parce que entre le moment où il va signer et le moment où on va lui livrer son logement, il y a souvent 12 à 18 mois qui s'opèrent et pendant cette période, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc nous, on lui propose des services pour justement lui permettre de faire vivre son projet de manière claire et aussi de faire vivre finalement les services des promoteurs.
Ça veut dire que quand j'achète sur plan, par exemple, je peux me tourner vers vous aujourd'hui pour changer la couleur de ma cuisine ou changer les éléments de ma salle de bain. Vous allez pouvoir faire ça pour que je le visualise ?
Alors, il y a plusieurs étapes dans la vente de logement. Okay ? La première étape, c'est le promoteur qui propose des caractéristiques pour ces logements à ces vendeurs. Donc nous, on part de cette première étape et donc on propose des contenus qui sont là pour finalement mettre en valeur les prestations techniques de nos clients promoteurs et une décoration qui est choisie par lui. Bon, ça c'est la première étape. Donc là, l'idée c'est d'intéresser, de convaincre. Lorsqu'on arrive à la phase finale, donc qui est de la finalisation de la vente, là on arrive dans une
Oui, j'étais déjà en train d'emménager.
Voilà, donc là, le client, lui, fait des choix. Il décide de changer son sol, il décide de changer ses meubles, par exemple, dans la salle de bain, ses faïences. Donc nous, on va repartir de ses choix, on va les intégrer et on va les adapter, en fait, à ses goûts, à lui, quoi, en fait, hein, de manière à ce qu'il puisse vraiment se projeter chez lui. Et pas forcément sur le logement tel qu'on lui a présenté au départ.
Elisabeth, la digitalisation du secteur de l'immobilier, c'était quelque chose d'essentiel.
C'était même indispensable, hein, à tel point que deux chercheurs d'Oxford ont prédit en 2018, que 97% il y avait 97% de certitude qu'il y aurait la disparition des agents immobiliers au cours des prochaines décennies. Bon, ils l'ont dit il y a un an, on ne l'a pas encore vérifié. Pourtant, déjà, en 2015, 30 à 40% des ventes immobilières se faisaient déjà entre particuliers grâce à des plateformes comme Le Bon Coin, Se Loger ou PAP. Donc là, cette digitalisation était essentielle, indispensable dans un secteur ultra concurrentiel. Pourquoi ? Parce que cette digitalisation, ce sont des nouvelles opportunités pour transformer le métier. C'est ça dont on avait besoin.
Que dit notre coach, Guillaume Carroux ?
Moi, j'ai plusieurs remarques. Vous avez déjà opéré un pivot, donc un repositionnement un peu de votre activité. Vous avez des ambitions internationales fortes, vous avez déjà quelques présences à l'international. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place sur votre secteur pour un leader mondial, pour une future licorne ?
C'est difficile de répondre.
Oui, on vous sent un peu embêté par cette question.
Je ne pense pas qu'il y ait de la place pour une licorne dans le métier de la visite virtuelle. Hein. Par contre, je pense qu'il y a de la place, oui, pour une licorne dans la transformation du métier au sens large de l'immobilier. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai entendu l'étude qui prédisait la disparition des agents immobiliers. Je vais vous dire quelque chose que je dis toujours à mes équipes. Aujourd'hui, quand vous tombez sur un bien qui vous plaît, qui est au bon endroit et qui est au bon prix, personne n'a besoin de dire quoi que ce soit. Si vous avez les moyens, vous l'achetez. À l'inverse, si vous tombez sur un bien qui ne vous plaît pas, qui n'est pas au bon prix, je peux vous raconter ce que je veux, vous ne l'achèterez pas. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'un professionnel pour opérer cette partie-là ? J'en suis pas certain. Par contre, on a besoin d'un professionnel, je pense, pour administrer la vente, ce qui est un autre sujet que la vente en elle-même.
Et on va justement continuer à en parler de ce sujet de l'immobilier ensemble aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Vendre son bien, c'est parfois très long. Alors pour raccourcir les délais, Home Loop a trouvé une technique. A tout de suite.
En France, l'immobilier aussi se digitalise. On en parle dans le dossier du jour de La France Bouge avec vos invités Raphaël Duchemin. Mais on vous attend, hein, bien sûr, vous aussi, auditeurs, sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou au 39-21, 50 centimes la minute.
Quand on décide de vendre son appartement ou sa maison, on a déjà mûrement réfléchi. En général, on veut quitter les lieux pour partir ailleurs, acheter plus grand. Et on aimerait forcément que ça se passe le plus vite possible. Bonjour Aurélien Gotefard.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Home Loop. C'est une plateforme qui achète notre bien en 48 heures. Racontez-moi comment vous est venue cette idée. C'était il y a 4 ans, je crois.
Ouais, j'ai commencé en 2016. Alors l'idée, c'est sur la base d'une expérience un petit peu d'achat et de vente de biens immobiliers.
Oui, parce que vous étiez dans le secteur bancaire. Alors,
moi, j'étais dans le secteur bancaire.
Et les investissements immobiliers.
Et alors effectivement, dans le cadre de mes activités professionnelles de l'époque, j'avais eu l'occasion de pas mal étudier ce secteur d'activité.
Et donc vous connaissiez les freins.
Donc je connaissais les freins. Et notamment, en fait, un des grands freins, c'est qu'aujourd'hui, en France, si vous voulez vendre un bien immobilier, si tout se passe bien, vous allez mettre en minimum 4 à 6 mois. Et si malheureusement le process dérape un peu, bah vous pouvez partir sur des process qui vont durer 8, 9, 10, 1 an. Et l'idée, c'était vraiment donc de proposer un nouveau service qui permettrait de répondre aux deux problématiques clés du vendeur, qui sont à quel prix je vends et quand. Aujourd'hui, vous avez un vendeur sur deux qui démarre son processus en étant inquiet effectivement sur ces deux questions, donc à quel prix je vends et quand. Et Homeloop, en fait, est la réponse à ces deux problématiques et vous donne tout de suite une réponse sur ces deux sujets.
Alors, comment vous faites, justement, pour répondre à cette question que tout le monde se pose?
Alors, nous, la première chose, c'est qu'on est donc acheteur. Et donc, comment ça se passe? C'est-à-dire que l'utilisateur va sur notre site Internet, il remplit un formulaire d'une trentaine de questions. Il obtient, à la fin de ce formulaire, une réponse de principe qui lui dit, voilà, vaut bien vos temps. Et nous, on vous l'achète à tel prix.
C'est-à-dire que vous achetez au prix du marché ou un petit peu en dessous?
Alors, on définit en réalité un prix de marché et un coût de service qui va correspondre au coût du transfert. Enfin, finalement, le propriétaire transfère son risque à Homeloop et donc, on va lui facturer quelque part le coût de ce transfert de risque. Donc aujourd'hui, pour illustrer, un bien vaut 100, on va l'acheter dans une zone comme Paris, par exemple, à 93% de sa valeur.
93% de sa valeur, mais c'est immédiat. En 48 heures, la vente peut être faite.
Alors, c'est immédiat dans le sens où nous, on peut s'engager formellement à acheter le bien en même 24, 48 heures, quelques heures, s'il faut. Après, on passe quand même par un processus de vente traditionnel. Donc, on a toute une étape de collecte de documents qui peut s'avérer assez longue. Mais en réalité, aujourd'hui, on est capable d'acheter en quelques semaines. Donc, typiquement, la transaction la plus rapide qu'on ait faite, c'est 3 semaines. Donc, en 3 semaines, on s'est mis d'accord avec le propriétaire, on a purgé un droit de préemption urbain et on a les fonds étaient chez le notaire et le propriétaire a touché le fruit de sa vente.
Oui, parce que ça résout quand même un problème majeur qui est quand on trouve un acheteur, l'acceptation des crédits qui peut prendre pas mal de temps.
Exactement. Aujourd'hui en France, vous avez, pour obtenir un crédit immobilier, qui est quand même le produit, je pense, le plus standard dans l'industrie bancaire, pour obtenir une offre de prêt de votre banque, ça va prendre entre 1 mois et demi à 2 mois facilement. Et aujourd'hui, quand vous allez chez le notaire et que vous signez un compromis de vente ou une promesse de vente, il va vous dire « Ok, très bien, monsieur, on se retrouve dans 3 mois pour signer formellement la vente. »
Que dit Guillaume Cayroux de Homeloop et de son idée d'achat rapide, 48 heures?
Non, mais c'est un secteur, on l'a vu, la France bouge l'année dernière. On avait déjà reçu un certain nombre d'acteurs dans la digitalisation de l'immobilier. Ouais. Donc, c'est un secteur qui lève beaucoup de fonds. La question est quels sont vos projets sur la levée de fonds, parce qu'effectivement racheter des appartements ça nécessite quand même d'avoir les reins solides et quels sont vos perspectives et quels sont votre objectif de levée de fonds pour pouvoir, j'ai vu que vous vouliez multiplier par 4 votre chiffre d'affaires.
Ouais.
Alors effectivement aujourd'hui donc on avait fait une première levée de fonds en 2017, on en a refait une en mars 2019. Aujourd'hui on a à peu près 10 millions d'euros de biens immobiliers donc au bilan, enfin sur notre on détient à peu près 10 millions
donc
d'euros.
Vous devenez promoteur.
On est propriétaire et donc on est propriétaire de biens immobiliers sur des périodes les plus courtes possibles. Tout l'enjeu est effectivement sur le délai de revente. Donc aujourd'hui on a 10 millions d'euros de biens au capital, enfin au bilan, et l'enjeu l'année prochaine effectivement c'est d'atteindre donc 60 millions de volume d'affaires. Et donc, effectivement, ça passe par à la fois de la levée de fonds en fonds propres et de la levée de dettes auprès d'investisseurs.
Pour l'instant, vous n'êtes présent qu'en Île-de-France et à Lille, je crois.
Exactement,
c'est ça. L'idée, c'est de vous étendre dans une dizaine de grandes villes en France.
C'est ça, absolument. Donc, on a commencé en Île-de-France, qui est le plus gros marché en France. Vous avez 20% du nombre de transactions nationales. Et en valeur, voilà, ça vaut entre 30 et 40% de la taille totale du marché, qui est de 230 milliards. Et l'idée, effectivement, on a commencé à Lille en septembre. On ouvre Nantes en janvier. Et on va ouvrir les 10 principales métropoles françaises d'ici début 2021.
Question, Elisabeth.
Qui sont vos clients? Ce sont des personnes qui sont dans l'urgence?
C'est des
divorces?
Alors,
c'est quoi?
On a effectivement des gens qui, en fait, surtout ont besoin de sécurité et ont besoin de se dire...
Sécurité est prêt à renoncer à 8% du bien.
Exactement. Mais de toute façon, si vous regardez aujourd'hui, globalement, quand vous mettez votre bien en vente avec une agence ou en direct, vous allez de toute façon avoir une marge de négociation qui est de l'ordre de 2,5% en Île-de-France.
Et une
ensuite,
commission
vous allez payer
aussi à
une
donner.
Commission qui, bon, même s'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent avec des commissions beaucoup moins chères, de toute façon...
Alors c'est qui vos clients?
Alors nos clients, effectivement, ce sont les gens qui viennent chercher de la sécurité. Donc c'est des gens qui ont déjà acheté un nouveau bien. Aujourd'hui, c'est un client sur deux
qui veulent pas passer par des frais relais, par exemple.
Voilà, qui en fait sont un peu stressés par l'hypothèque, qui a un côté très anxiogène, qui finalement se disent « Bon voilà, en vendant à Homeloop, j'ai 100% de mon apport qui est disponible immédiatement. » Et je peux l'engager sur ma nouvelle acquisition.
Elisabeth, vous avez trouvé aussi une start-up, je crois, qui facilite pour le coup les démarches quand on achète un bien ou quand on le vend.
Oui, tout à fait. Vous avez par exemple MyNotary. C'est une start-up qui vous permet de réunir en un clic l'ensemble de tous les acteurs présents lors d'une vente immobilière. Hein, c'est-à-dire le vendeur, l'acheteur, l'agent immobilier, le notaire, le banquier, l'assureur. Pas besoin de passer son temps à téléphoner, à récupérer le papier à un tel, d'attendre que ça arrive. Évidemment, c'est ce qui va prendre beaucoup de temps et c'est ce que vous étiez en train de nous expliquer. Tous peuvent communiquer en toute transparence et gagner du temps sur toutes ces démarches. D'ailleurs, cette start-up MyNotary a levé 1 million d'euros cette année.
On reste ensemble et on va continuer à parler immobilier aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Autre galère quand on cherche à se loger en location, ce sont les garanties. Et si quelqu'un s'occupait justement de la caution à notre place ? À tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Raphaël Duchemin avec La France Bouge sur Europe 1. Aujourd'hui, les questions d'immobilier qui, comme tous les domaines, se digitalisent aussi. Et on vous attend pour en parler avec nos invités au 39 21 50 centimes la minute.
Pas toujours évident hein, quand on cherche un appartement à louer de faire le chèque de caution qui va avec ou d'avoir la garantie nécessaire pour que cet appartement ou cette maison ne nous passe pas sous le nez. Alors un système se substitue à nous. Bonjour Julien Chenet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Cautionéo, une solution de garantie de caution et de location. Il faut dire que dans une autre vie, je crois que vous aussi, vous avez été banquier et que vous connaissez bien le système.
Tout à fait, on connaît bien le domaine des cautions. On est deux anciens banquiers dans les cofondateurs.
Aujourd'hui, vous dites que la garantie, c'est une caution morale. C'est au départ notre travail à nous d'apporter ce soutien-là. Et pourtant, ça ne marche pas forcément.
En fait, la caution, c'est un acte financier, hein, comme un crédit. Mais nous, ce qu'on a vu derrière la caution, c'est surtout un engagement moral que prend un tiers vis-à-vis d'un client. Donc là, en l'occurrence, chez nous, c'est le locataire. Et l'idée, c'est vraiment, au travers de notre service, de l'accompagner dans son projet de vie, qu'est la location. Et c'est vraiment un projet de vie, puisque la location, c'est son premier appart étudiant, son appart dans son premier job. On se met en couple, parfois les accidents de la vie aussi, les divorces. Et donc, notre métier chez Cautionéo, c'est de se positionner en tiers de confiance pour faciliter l'accès au logement des locataires, en devenant leur garant et en faisant d'eux le locataire idéal. Et pour ça, on apporte des garanties optimales au propriétaire pour le rassurer et lui permettre de louer en toute sérénité, en ayant la certitude qu'il n'aura pas d'impayé.
De quoi est-ce que vous avez besoin pour ça ? Qui vient vous voir et qu'est-ce qu'il doit vous fournir ?
Alors le parcours est très simple. En fait, c'est une plateforme digitale. On en parle depuis tout à l'heure. L'idée, c'était vraiment de créer un parcours qu'on puisse traiter de son domicile. Donc le locataire va venir s'inscrire chez nous, soit spontanément, soit sur invitation hein, d'un propriétaire ou d'un agent immobilier. Il remplit un petit questionnaire, ça lui prend à peine 3 minutes. En fait, c'est une simulation qu'il réalise et on vient lui dire si oui ou non ce projet est éligible à la location, ce qui est hyper rassurant pour eux. Beaucoup ne savent pas hein, aujourd'hui si le budget finalement est adéquat ou pas par rapport à leur ville. Et puis, dans la foulée, on vient lui confirmer notre garantie et lui permettre ainsi d'avoir un garant en moins de 24 heures. Et là où c'est très fort, c'est que derrière, on vient aussi lui proposer, s'il le souhaite, de le mettre en relation avec des agents immobiliers partenaires pour, encore une fois, faciliter son parcours de location.
Vous avez plusieurs types de passeports. Vous appelez ça des passeports, passeports de dépôt et de garant, c'est ça ?
Oui, aujourd'hui, on a donc deux produits. Un produit qui est donc le garant. Concrètement, Cautionéo devient le garant du locataire et porte l'enjeu financier vis-à-vis du propriétaire sur les loyers impayés. Et on a également été les premiers à créer en France une solution pour ne plus verser de dépôt de garantie. Ce fameux chèque de caution que vous versez quand vous prenez un appartement dans une période où il y a beaucoup de dépenses et chèque qui finalement est encaissé par le propriétaire mais qui ne remplit pas vraiment son rôle parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour vraiment couvrir des réels dégâts matériels. Donc on a créé une solution là aussi 100% digitale qui permet de substituer ce système toujours dans une logique de gagnant-gagnant. C'est vraiment la vocation de Cautionéo, c'est d'apporter la sérénité à ces deux acteurs.
Oui, parce que quand on regarde les listes d'attente pour un appartement, on se rend compte que le marché est véritablement sous tension. Donc il y a 15, 20, 25 personnes sur le même appartement qui se disent « si je n'ai pas cette garantie-là, on ne va pas me le donner ».
Oui, il y a deux problèmes. Il y a la problématique de volume de candidats aujourd'hui. Donc la moyenne en France, c'est à peu près 25 candidats par appartement. Bon, à Paris, on peut même aller jusqu'à 50. Donc la question, c'est comment on peut faire pour se distinguer justement des autres candidats et comment on peut montrer à son propriétaire qu'on est un locataire sérieux et surtout certain. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que tout le monde n'a pas la chance hein, aujourd'hui de pouvoir être en CDI. Le monde du travail a changé. Malheureusement, les codes de la location, eux, n'ont pas changé. Et donc, avec notre solution, on est en capacité aujourd'hui d'accepter des profils, par exemple, de freelance. Un journaliste freelance, hein, des gens que vous connaissez bien, a de grandes difficultés à se loger, par exemple, mais ça peut être aussi des chefs d'entreprise, des CDD. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter une solution à ces gens qui n'existent pas.
Que dit notre coach, Guillaume Carou ?
Le sujet, effectivement, est intéressant. J'ai vu qu'il y avait Action Logement qui proposait une garantie visale, notamment plus pour les jeunes, les personnes précaires. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de concurrents sur le marché. Et l'autre question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a un risque que, par exemple, je sais pas, le gouvernement, le législateur, oriente cette garantie visa là, à tous et qui viendrait peut-être un peu freiner Préhonté, finalement le développement oui. de votre business.
Alors, en fait, il faut bien mapper un peu hein, le marché de la location. Vous avez effectivement la partie sociale où aujourd'hui ben, l'État français joue pleinement son
mapper,
rôle.
Mapper, cibler, on est d'accord.
Voilà, donc avec des populations qui clairement ne seraient pas éligibles hein, à la solution Cautionneo qui est un modèle assurantiel. Par contre, on a plein d'autres personnes, hein, par exemple les jeunes actifs, etc., qui, eux, bah, ne sont pas éligibles à ces dispositifs et qui n'ont pas de solution. Et c'est là tout l'enjeu stratégique de Cautionneo. L'idée, c'est de leur apporter de la garantie et aussi de leur faire gagner du temps.
Ce n'est pas gratuit, on ne l'a pas dit, mais c'est important de le préciser. Oui. Vous prélevez une petite partie, c'est ça ?
C'est ça. Donc le prix du service, c'est 3,5% du loyer chaque mois, ce qui, sur un loyer de 600 euros, hein, qui est à peu près la moyenne nationale, on tourne à 20 euros par mois.
Mais si je reste 10 ans dans cet appartement ?
Alors, vous allez payer effectivement pendant toute la durée d'un logement. Hein, c'est le prix du service et c'est le prix de la garantie que vous apportez au propriétaire et qui lui permet encore une fois d'être assuré et de vous confier le bien en toute confiance.
Elisabeth, est-ce que vous n'auriez pas trouvé par hasard une start-up qui a changé aussi la donne pour trouver les bons locataires ?
Ça s'appelle Locatme, c'est une sorte de Tinder de la location d'appartements. C'est un site de rencontre pour les propriétaires. Et les locataires, les fondateurs de Locatme croient en la thèse du coup de foudre, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, du coup de foudre immobilier. Et cette start-up propose donc aux propriétaires de diffuser leur offre, puis d'accéder gratuitement à une liste de candidats qui se seront proposés pour la location. Et ensuite, ils ont mis au point un dispositif, un système qui calcule le degré de compatibilité entre les exigences du propriétaire et celles du locataire.
On reste ensemble et on vous attend, bien sûr, au 3921 et sur Twitter.
Il est 13h37.
Europe 1.
Venez parler immobilier avec nous, venez nous dire, nous raconter vos galères si vous en avez eu. Venez aussi poser vos questions à nos invités. C'est la France qui bouge avec vous. À tout de suite sur Europe 1.
Comme chaque semaine, on vous retrouve, Raphaël Duchemin, avec La France Bouge. On parle immobilier ce mardi. Alors si vous connaissez des sites ou des applications, comme celle de nos invités, qui facilitent l'achat ou la location, faites-le nous savoir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et vous serez avec nous en direct sur Europe 1. Nous sommes avec Aurélien Gotefard, d'Homeloop, Julien Chenet, de Cautionneo et Stéphane Saïdani, fondateur de Gizmo. Notre coach aujourd'hui, c'est Guillaume Quérou, Elisabeth Assayag est là, bien sûr. On a déjà quelques questions, je crois, sur Twitter,
sur le hashtag Europe 1, exactement. Flo nous dit, Homeloop s'adresse-t-il uniquement aux vendeurs ou aussi aux acheteurs ?
Réponse évidemment, Aurélien.
Alors Homeloop, évidemment le business model d'Homeloop, c'est d'acheter et de vendre les appartements, donc effectivement on s'adresse aussi aux acheteurs et donc ça permet aux acheteurs quelque part d'acheter un bien qui est au bon prix, qui a été quelque part audité par un professionnel de l'immobilier et donc quand il achète un bien Homeloop, il peut bénéficier donc de garanties supplémentaires par rapport à s'il décide d'acheter un particulier et on est également en train donc de sortir une offre qui va permettre d'être un petit peu le satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait de votre appartement au bout de 2 mois, vous pouvez nous le revendre.
Donc vous rachèteriez le bien que vous aviez vendu.
On rachète les biens qu'on a vendus.
Bon, autre question, Justine.
Marc nous dit, avec vos différentes innovations, pensez-vous que les solutions traditionnelles pour acheter ou vendre un bien immobilier sont désormais obsolètes ?
Ah, bonne question, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est, comme le disait Elisabeth, dans l'étude en question, la mort de l'agent immobilier tel qu'on connaît aujourd'hui ?
Ouais.
Qui veut répondre ?
Alors, je vais répondre.
Allez-y, Stéphane.
Je vais initier la réponse. La mort de l'agent, j'en suis pas certain. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que son métier a besoin de renouvellement, de transformation complète. Je pense qu'on vend encore trop souvent aujourd'hui un bien comme on le vendait il y a 30 ans. Bien sûr, les professionnels utilisent différents outils, mais finalement, la forme et la qualité du service perçu par le client n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, qu'est-ce qui reste en réalité, c'est que le vendeur, il a l'impression de payer trop cher pour un service qui n'est pas à la hauteur. Donc, sur cette simple constatation, je pense qu'il y a, ça mérite de se réinventer et de proposer un parcours différent, nouveau, attractif. Et je pense que l'immobilier est un engagement fort. Ça touche quand même... c'est toute une vie, hein. C'est une vie qui se construit. Et il n'y a pas que le logement, il y a ce qu'il y a autour.
Julien ?
Oui, alors chez nous, chez Cautionneo, on a vraiment pris le parti pris de travailler main dans la main avec les agents immobiliers. L'idée, en fait, c'est plutôt nous de leur apporter justement des outils digitaux qui vont finalement les accompagner sur des démarches très chronophages, hein, que sont dans la location, l'analyse du dossier, la certification des justificatifs pour leur permettre de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée que nous, on ne peut pas faire, hein, en tant que solution digitale, que sont la recherche de mandat, la location, l'accompagnement pendant la vie dans le logement, etc. Et donc, on est vraiment plutôt dans une logique de travailler vraiment à leur côté, au service de leurs clients, plutôt que de se voir comme des gens en opposition.
Je voudrais qu'on revienne un instant sur Gizmo, Stéphane, parce que j'ai vu que vous étiez en train d'évoluer et qu'il y avait désormais viewer pour faire des visites virtuelles avec son téléphone mobile de bien ou de vente ou en location, les deux hein, d'ailleurs. Ça veut dire que du coup, on n'est plus sur simplement le promoteur immobilier, on peut nous aussi directement s'adresser à vous.
Oui, donc comme l'a été dit tout à l'heure, le marché immobilier,
c'est Viewer, c'est ça.
Voilà, c'est Viewer, donc V-I-E-2-W-E-R. Donc c'est une application mobile, aujourd'hui iPhone, qui permet effectivement à n'importe qui, professionnel ou particulier, de faire visiter un bien qui est destiné à la vente ou à la location juste avec son smartphone en quelques minutes. La visite virtuelle est traduite sous forme d'une annonce immobilière qui peut être partagée sur tous les supports digitaux existants.
Elisabeth ?
Moi, je pense que vous avez raison, le métier est en train de changer parce que aussi le monde du travail est en train de changer. Parce que là, ce qui vous relie tous les trois, c'est aussi parce que les contrats d'engagement ne sont plus les mêmes. Donc, vous vous adressez à une population qui est déjà, entre guillemets, précaire pour l'instant. Donc, vous le disiez tout à l'heure, ceux qui ont des moyens, ils vont passer par un agent traditionnel parce qu'ils auront les moyens de payer le bien qu'ils convoitent. Mais là où il y a de l'avenir, en mon sens, c'est pour ce marché du travail qui se transforme et où il y aura moins de garanties.
Vous êtes d'accord ?
Alors, il faut bien comprendre, parle de précaire, c'est surtout que les codes de l'immobilier ne sont pas adaptés à l'évolution de la société. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en freelance peut très bien gagner sa vie. Un chef d'entreprise peut très bien gagner sa vie. C'est juste qu'aujourd'hui...
Mais le statut reste précaire.
Le statut reste précaire, voilà, au regard de la façon dont on le regarde, finalement, selon l'angle de vision, qui n'est pas l'angle de vision de Cossioneo, c'est de se dire qu'aujourd'hui, un locataire qui est freelance, qui est chef d'entreprise, peut être quelqu'un de très solvable. En tout cas, nous, on le pense et on le porte au travers de nos solutions. Et l'idée, c'est justement d'essayer de faire bouger un peu les lignes et de montrer que le monde a changé.
Guillaume Caro.
Non, effectivement, c'est un sujet intéressant, ce monde qui bouge. D'ailleurs, moi, je suis en plein dans le sujet. Je viens d'acheter un appartement et j'ai eu un agent immobilier, on va dire, plutôt un consultant même, qui était davantage proche d'un chasseur d'appartements, quelqu'un qui connaît bien le quartier, qui connaît bien la cible de vendeurs. Et donc, tout ça me dit effectivement que les agences traditionnelles vont disparaître, mais il y a de la place pour réinventer l'immobilier avec du service, du conseil, de l'innovation, et vous êtes un véritable panel de tout ce qu'on peut faire demain dans l'immobilier.
Oui, parce que manifestement, Elisabeth, le marché n'est pas encore saturé.
Mais oui, si on regarde le nombre de transactions, on est en train de battre un double record là, en cette année 2019. Le marché de la vente concernant les logements anciens, ça peut faire naître beaucoup plus de vocations hein, chez toute forme d'agent immobilier. Plus d'un million de transactions conclues au 30 juin sur 12 mois, et c'est du jamais vu depuis 40 ans, avec à des prix élevés comme jamais. Bon, évidemment, quand on parle de ça, on pense plus à Paris, mais aussi à Lyon ou à Nantes. Hein. Paris, en moyenne, 10 000 euros le mètre carré. Et quand on sait que c'est basé sur leurs honoraires sont basés sur le prix du mètre carré, on peut imaginer le montant de la commission moyenne, qui est de 4,2%. Donc imaginez combien ça fait sur des biens à plus de 500 000, 1 million d'euros, voire plus.
Merci à tous d'être venus participer à cette émission aujourd'hui pour nous parler immobilier et digitalisation.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
La France bouge continue avec vous, Raphaël Duchemin, mais avec aussi Rispal qui crée des lampadaires. C'est l'entreprise qui va bien, merci.
Ah oui, cette entreprise, c'est donc Rispal. Rispal qui est né en 1924 et qui porte le nom de son créateur, Georges Léon Rispal. Aujourd'hui, c'est vous qui lui avez redonné vie. Douglas Mans, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous me disiez, je suis entrepreneur, mais je suis surtout artiste, hein, il y a quelques instants. Parce que c'est vrai qu'au départ, vous êtes designer, vous êtes aussi collectionneur. Vous aviez, je crois, chez vous, justement, des luminaires Rispal, qui sont les témoins d'un style, d'une époque, les années 20.
Alors avant tout, je suis passionné, en fait. C'est surtout ça.
C'est important.
Je suis passionné de luminaires, passionné de belles choses. Et un jour, j'ai eu une évidence. Elle était face à moi dans mon salon. C'était faire revivre un luminaire merveilleux que l'on surnomme la menthe religieuse. Nom qui lui a été donné en fait par les antiquaires et les décorateurs au fil du temps, car sinon, il portait juste un numéro de référence barbare, c'était le lampadaire numéro 14950.
Oui. Et donc, ce lampadaire, vous l'aviez chez vous, et vous vous êtes dit, mais c'est pas possible que cette marque disparaisse, parce que dans les années 80, 1982 très précisément, le couperet tombe.
L'entreprise ferme ses portes.
L'entreprise ferme.
Concurrence italienne. Son fondateur, Georges Rispal, vieillissant, pas de succession, ou plutôt ses successeurs n'étaient pas vraiment intéressés pour continuer la vie de l'entreprise. Et voilà, l'entreprise s'arrête net, tout le savoir-faire disparaît, les machines, les outils, les plans, tout passe à la poubelle. Et ça a été la grande difficulté en fait, du projet, c'était de tout retrouver et même réinventer. Puisque il y a quelque chose d'emblématique sur ce lampadaire, c'est son abat-jour en acétate de cellulose. L'acétate de cellulose, c'est un bioplastique qui n'utilise pas de pétrole dans sa fabrication, pour l'acétate qu'on utilise, parce qu'il y en a plusieurs types. Et en fait, dans les années 50, on savait très bien faire des films de type plastique, mais avec des matériaux écologiques. Donc la difficulté, la première, elle a été de refaire fabriquer ce matériau, puisqu'on ne le retrouve pas aujourd'hui, sous forme de film, qui est la matière première que nous utilisons. Et surtout, après, il a fallu redévelopper et réinventer des techniques et des outillages pour remettre en forme ces abat-jours.
Et vous allez pendant 5 ans, comme ça, chercher, creuser. Vous n'êtes pas seul, hein, je crois qu'il y a la petite fille de Georges Léon Rispal
C'est la fille de Georges Rispal, en fait, qui va rejoindre l'entreprise dans quelques temps, puisque nous avons décidé de l'associer au capital. Et malheureusement, elle était cantatrice. C'est une charmante personne, mais qui ne nous a pas beaucoup aidé pour le développement, puisque en fait, elle-même n'en savait pas franchement beaucoup sur les moyens de production de l'époque.
Donc, vous puisez dans les catalogues. Comment vous faites pour trouver
Alors, l'idée, c'est il a fallu refaire des archives, retrouver des catalogues, les marchés opus, eBay, enfin tout ce qu'on a pu chiner sur l'entreprise, on a retrouvé. Et à partir de ces documents et de modèles d'époque, puisque depuis une dizaine d'années maintenant, je les collectionne et chaque fois que je voyais un modèle d'époque, je l'achetais, on a réussi à reconstituer une bibliothèque, si vous voulez. Et à partir de cette bibliothèque, on a commencé à redessiner les modèles. On peut dire redessiner pour rééditer, mais en fait, c'est plus que ça, c'est même des réécritures. Parce que les modèles d'époque, en fait, ne passent pas du tout les normes de sécurité.
Ça veut dire que vous avez refait la fameuse lampe religieuse, par exemple.
Il a fallu la réécrire totalement, car le modèle d'époque, en fait, ne pouvait pas être commercialisé aujourd'hui.
Pourquoi ?
Norme de sécurité, en fait. Le modèle d'époque a un équilibre très précaire, et il y a tout un tas de batteries de tests qui faisaient que ce luminaire ne passait pas les normes.
Vous travaillez aujourd'hui avec beaucoup d'artisans, hein, des partenaires qui ont pour la plupart le fameux label qu'on connaît bien ici, le label Entreprise du patrimoine vivant.
Tout
c'est important, ils sont aussi respectueux de l'environnement, ça c'était primordial pour vous.
Si vous voulez, avant de me lancer dans ce projet, avec mon associé Clément Bergès, un homme merveilleux, je faisais beaucoup de mobilier en plastique et de luminaires en plastique avec un procédé qui s'appelle le moulage par rotation. Et en fait, ma volonté de relancer cette société Rispal, elle naît aussi d'une prise de conscience et de dire maintenant on arrête avec les polymères et on fait quelque chose de plus noble, de plus sain, de plus raisonné.
Que dit notre coach, Guillaume Kerrou ?
Non, c'est vrai qu'on sent un entrepreneur engagé, passionné, respectueux de l'environnement. On a parlé effectivement de la fin de cette entreprise que vous avez repris, que vous allez relancer, et comment vous allez pouvoir faire face justement à cette concurrence italienne si on prend que ce pour permettre le développement de cette belle entreprise avec les...
Alors c'est plutôt concurrence asiatique d'ailleurs maintenant.
Oui.
En fait, la différence, c'est que nous, on est sur un marché très particulier qui est en fait le produit de luxe, si vous voulez. Et quelque part, nos clients, nos consommateurs cherchent des produits authentiques, soucieux de préserver l'environnement, cherchent des produits souvent made in France, qui sont vendus avec des certificats d'authenticité, des pièces qui sont faites à la main, en France, par des artisans qualifiés. Donc, si vous voulez, nous, notre business model, il est sur des tout petits volumes.
Et vous avez repris l'entreprise et depuis, je le précise tout de même, le chiffre d'affaires double chaque année. C'est Rispal, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous raconter son histoire
Et merci Raphaël.
Sa nouvelle histoire sur Europe 1. Merci à Guillaume Carreau qui était notre coach aujourd'hui. Elisabeth Justine, on se dit à demain.
À demain Raphaël.
Merci Raphaël Duchemin. Surtout restez avec nous dans quelques instants pour retrouver Christophe Ondelat sur Europe 1.